À plus d'un titre, deuxième partie, bonjour à tous, une émission consacrée à l'art de la guerre de Sun Tse, un ouvrage donc traduit du chinois et commenté par Jean Lévy, bonjour.
Bonjour.
Jean Lévy, vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Chine ancienne, vous êtes à la fois essayiste, vous avez publié des ouvrages donc sur l'histoire de la Chine et notamment sur le taoïsme, la philosophie taoïste, et puis vous êtes également romancier. Vous publiez aujourd'hui un très beau livre illustré aux éditions Nouveau Monde, je le disais, donc ce traité de l'art de la guerre dû à Sun Tzu, c'est le grand manuel de stratégie. L'auteur, donc, Sun Tzu, merci. Vous aurez encore une fois, sans doute, ou même plusieurs fois, à corriger ma prononciation, Jean Lévy. Je vous y invite. Donc, c'est un stratège et général, l'auteur de la fin du VIe siècle avant notre ère, mais qui semble plutôt être ce texte, l'art de la guerre, finalement, ce que vous dites, une compilation de textes, une compilation plus récente que datant du VIe siècle. C'est un ouvrage, en tout cas, dont la notoriété ne s'est jamais démentie depuis lors, et jusque pour le président Mao Zedong. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, son succès était tel, d'après un auteur que vous cité, Han Fei, qu'on en trouvait un exemplaire dans chaque foyer. Et j'allais vous demander, il s'agissait évidemment à l'époque, 3e siècle avant Jésus-Christ, de copies manuscrites.
Naturellement.
Bien sûr. La première édition d'ailleurs de ce texte date du 11e siècle, puisque l'imprimerie est une invention plus ancienne en Chine. Qu'en Europe. L'art de la guerre, donc, est en plus un texte très inspiré par la philosophie taoïste et non pas par le confucianisme, nous le verrons. Le taoïsme est une philosophie que vous connaissez bien, je l'ai dit, puisque vous avez vous-même traduit le livre de la voie et de la vertu, le texte fondateur de Lao Tzu, le Tao Te King. Alors, l'ouvrage est très illustré, c'est tout à fait intéressant. En plus de la nouvelle traduction et des commentaires, notamment des commentaires d'auteurs postérieurs à Sun Tse, donc ça constitue le grand intérêt du livre. C'est une riche iconographie, il y a des objets d'art ou d'art funéraire, des objets archéologiques, bien sûr, des peintures, des estampes, des manuscrits où on voit cette belle écriture, graphie chinoise, des incunables. Mais revenons à la personne de Sun Tse, car le seul élément de sa biographie qui figure dans la notice que lui a consacrée l'historien Sima Qian. Merci. Cette anecdote vous apparaît, Jean Lévy, symbolique et révélatrice d'une mutation décisive dans la conception et la conduite de la guerre dont ce manuel de stratégie, l'art de la guerre, se fait le témoin.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire que la biographie de Sun Tzu par Sima Qian est totalement vide. Elle se borne à une seule anecdote, c'est-à-dire qu'elle raconte comment Sun Tzu a pu dresser à la manœuvre un gynécée royal.
Ouais, un harem, quoi.
Oui, un harem. Mmh. Et dans, disons, cette anecdote, il y a toutes les transformations de la guerre entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère. C'est-à-dire qu'à partir du Ve siècle, on n'a plus une armée de nobles, on n'a plus, disons, des valeurs héroïques qui sont mises en avant, mais on a une armée de conscrits et qui dépendent entièrement de l'habileté stratégique
des généraux.
Ouais. Et à partir de ce moment-là, la valeur guerrière n'a plus aucune importance. Et même des femmes bien commandés peuvent faire de très bons soldats. Voilà. C'est donc la première leçon qu'on peut tirer de l'anecdote de Sima Qian.
Oui, qui est symbolique. Donc,
elle est tout à fait symbolique. C'est une affaire symbolique qui est une... En réalité, c'est une fable sur les transformations militaires. Mmh. Et alors, d'autre part, ce que l'on voit aussi, c'est que le général doit combattre, non pas tellement l'ennemi, mais ses propres troupes, et aussi son propre souverain. Oui. Parce que dans la fable, ce qui se passe, c'est que c'est au moment où général exécute les deux favorites que l'armée devient manœuvrable. Oui. C'est-à-dire son armée femme. Donc il faut qu'il, en quelque sorte, impressionne et prennent l'ascendant sur ses propres hommes pour pouvoir, après, triompher de l'ennemi. Donc il faut d'abord triompher de soi-même.
Oui, oui.
Donc c'est la grande leçon.
Voilà. Alors, vous évoquiez cette féminisation, en quelque sorte, de la conception de la guerre. C'est effectivement important. C'est le sens symbolique aussi de cette anecdote que nous raconte le biographe, l'historien. On passe, selon vos propres termes, Jean Lévy, de la guerre noble à la guerre de masse. La guerre noble, alors vous l'avez dit, donc la guerre de masse, c'est l'armée de conscription. La guerre noble, c'est la guerre des aristocrates, qui fait de la valeur de la vertu une valeur fondatrice, bien sûr. Alors, cette vertu, alors je n'oublie pas qu'évidemment le grand livre de Lao Tzu, fondateur du taoïsme, c'est le livre de la voie et de la vertu. C'est donc, j'imagine, un terme extrêmement important en Chine, dans la culture et la civilisation chinoise. Vous la définissez, cette vertu, comme un courage fait de magnanimité.
Alors voilà, mais le mot
on est loin de la virtu, oui, machiavélienne.
Alors justement, le mot vertu de en chinois a des sens très différents. Et il y a, disons, une vertu qui est une vertu confucéenne, qui en fait reprend les vertus héroïques de la noblesse, où il ne s'agit absolument pas d'être efficace, mais où il s'agit de, en quelque sorte, d'être chevaleresque et noble. Et ce qui est important, c'est en quelque sorte, non pas de triompher, mais de manifester sa vertu, oui, c'est-à-dire ses qualités de désintéressement,
de courage aussi,
de courage, oui, et aussi de bonté, de charité, de justice. Tandis que la vertu taoïste est à l'opposé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas de manifester, disons, son courage et ses qualités, mais tout au contraire de manifester son efficacité. Et l'efficacité taoïste a ceci de particulier, qu'elle ne peut, se manifester que dans l'absence de toute qualité. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où un individu cesse d'avoir toute détermination qu'il peut devenir efficace. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où l'être est subordonné au non-être. Et la philosophie taoïste est une philosophie du non-être. Et la guerre que mènent les généraux chinois à l'instigation de Sun Tzu sont des généraux qui mènent une guerre du non-être, dans la mesure où ce qui compte, c'est de ne jamais se manifester. C'est-à-dire d'être totalement vide. C'est une guerre de l'insu.
Voilà, le vide, c'est très important. Il est décliné de différentes manières, on va le voir. Donc, par rapport à cette valeur de vertu qui caractérisait plutôt la guerre, les guerres de la noblesse, la guerre de masse, elle, et c'est les termes mêmes utilisés par l'auteur Sun Tse, donc c'est peut-être résumé comme l'art du mensonge.
Oui, c'est l'art du mensonge. Alors,
on ne va pas dire que c'est une valeur, une qualité féminine, mais on est dans une autre relation à la force et à la puissance.
C'est-à-dire qu'on est au contraire dans une guerre où on triomphe grâce à la faiblesse. C'est-à-dire, non pas en manifestant sa force, mais en se montrant toujours beaucoup plus faible qu'on ne l'est. D'une part, et d'autre part...
Oui, ça c'est pour faire illusion aussi.
C'est le mensonge.
Pour enfumer l'adversaire.
Oui, c'est le mensonge. Oui. Mais aussi, c'est une guerre où la souplesse, la dérobade, les manœuvres indirectes sont fondamentales. Et la guerre qui est vraiment un bon guerrier, la guerre qui est vraiment une guerre menée de façon exemplaire, est une guerre où on ne combat pas. C'est vaincre sans combat. Une guerre à partir du moment où il y a engagement et en quelque sorte affrontement direct, est une guerre à moitié perdue.
Voilà. Alors, vous le dites aussi, ça fait partie d'ailleurs des recommandations de l'un des chapitres, le chapitre 8, les 9 retournements. Vous évoquez donc tout de même historiquement aussi ces guerres de masse, la manière dont elles sont menées. On utilise donc évidemment le mensonge et la ruse, des moyens de destruction massive. Donc détournement de fleuves pour inonder une ville, des incendies, de récoltes éventuellement, des pillages, etc. Vous dites, à cette époque donc, des royaumes combattants, la guerre avait quelque chose d'apocalyptique. Et donc vous évoquez la supériorité du Qin, une principauté puissante à cette époque, qui tiendrait moins aux batailles que cette principauté a remportées, ou ses généraux, qu'à celles qu'ils se sont abstenus d'engager.
Oui, parce que disons, il faut voir aussi la situation géopolitique de l'époque.
Donc c'est une bonne illustration aussi de cette
c'est cela.
Mais d'abord, absence d'engagement. Peut-être une...
Parce que d'abord, il y a sept puissances qui sont en rivalité, les unes contre les autres. Et donc, à partir du moment où il y a une guerre entre deux puissances ou trois puissances, celui qui ne se bat pas a l'avantage sur les autres. Parce qu'il, disons, il peut, en quelque sorte, à un moment donné, attaquer le plus faible ou même le vainqueur, ayant dû, en quelque sorte, s'engager dans une guerre, même souvent longue et meurtrière. Donc, il a l'avantage, toujours, puisqu'il a des troupes fraîches contre à engager contre...
D'où le conseil qui est donné parfois de fomenter des divisions et des conflits entre les deux adversaires.
Voilà, c'est cela. C'est une guerre où on joue aussi par adversaire interposé. C'est-à-dire qu'on suscite un adversaire.
Oui, oui. Alors ça, c'est les neuf retournements. Effectivement, donc, à cette époque, la guerre avait quelque chose d'apocalyptique. Vous l'avez dit, Jean Lévy, c'était les armées en présence étaient à l'époque des armées de conscription. Et c'est également dit dans l'art de la guerre, il faut beaucoup de moyens pour lever une armée importante. Dire les engagements les plus minimes, supposés au moins 100 000 fantassins.
Oui, 100 000 fantassins.
Ce qui était quand même déjà assez considérable. Et alors, du coup, c'est vrai que ça suppose une certaine prospérité, tout de même, pour pouvoir lever des armées pareilles. La guerre et l'agriculture, je vous cite, deviennent les deux faces d'un seul et même processus d'encadrement et de contrôle.
Oui, c'est-à-dire qu'on a des armées de conscrits qui sont tout de même très importantes, avec souvent 300, 400 000 soldats qui sont engagés dans des conflits. Donc, il y a toute une logistique, une intendance qu'il faut mettre sur pied. Et d'autre part...
Elle est évoquée dans le manuel. Ouais.
Oui, ça c'est très important. Et puis d'autre part, ça suppose un encadrement des populations. Parce qu'il faut pouvoir les lever, ces soldats. Et donc, en réalité, la société de l'époque, du IVe siècle, qui s'appelle époque des royaumes combattants, est une société entièrement militarisée et encadrée. Disons, on a une surveillance des populations, un encadrement qui est absolument extraordinaire.
Oui. Et qui fait qu'en effet, on peut lever une armée dans des délais de temps relativement brefs.
Ben, c'est-à-dire qu'en réalité, l'organisation militaire et l'organisation civile sont absolument superposables.
C'est ça.
C'est-à-dire que une armée, c'est la projection de la campagne sur le terrain, le champ de bataille.
Mmh. Oui. Alors, on a évoqué le tout premier chapitre avec vous, Jean Lévy, donc chapitre qui s'intitule « Supputation ». Vous relevez d'ailleurs, c'est intéressant, qu'en grec, le mot qui correspond au mot chinois pour « supputation
». C'est « logistai », c'est-à-dire c'est « calculé ».
Voilà, possède en quelque sorte le même profil sémantique.
Oui, c'est cela, parce que c'est à la fois « supputé » et calculer, et comparer, c'est-à-dire établir des comptes, puisqu'on fait le décompte des avantages et des désavantages des deux parties
camps,
en présence.
Voilà. Alors, le deuxième chapitre est important. Il s'agit... alors, le premier, c'est les supputations. Là, je pensais aux formations militaires. Mais en fait, le deuxième chapitre que j'ai quasiment sous les yeux, là, il faudrait que je trouve. Aidez-moi, Jean Lévy.
Oui, écoute, alors moi aussi, mais je pense que c'est...
Sur les opérations.
Ah, les opérations. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit dire que d'abord, il y a montrer que la guerre est quelque chose d'extrêmement périlleux. Et deuxièmement, que pour qu'une les opérations soient... réussi, il faut d'abord le mensonge et d'autre part, il faut une organisation. L'organisation est essentielle. C'est-à-dire qu'on voit très bien que pour Sun Tzu, malgré tout, il n'en parle pas tellement, mais il y a cette idée du système politique qui est là pour appuyer l'armée en campagne. Et la discipline aussi.
Alors, la qualité principale, on va voir là aussi qu'on est très proche de la philosophie du taoïsme. La qualité principale, on a parlé des supputations, donc évaluer les forces et les faiblesses de chaque camp. Mais c'est aussi savoir, comment dire, se positionner. À la fois par rapport à ces hommes, par rapport au terrain, notamment la topographie, c'est quelque chose de tout à fait important. L'art, en quelque sorte, de se conformer aux circonstances.
Oui, puisqu'on a une armée qui doit, en quelque sorte, faire l'économie des qualités militaires des combattants. Donc, ce qui compte, ce qui remplace, disons, la valeur militaire...
Vous voulez dire que les conscrits ne sont pas forcément... se distinguent pas forcément...
Ah, par leur bravoure.
Par leur bravoure, oui.
Et par leur allant. Donc, il faut rendre des gens qui n'ont qu'une idée, c'est de rentrer chez eux, et de retourner à leur lopin de terre et à le cultiver. Il faut en faire des combattants. Et cela, ça nécessite, disons, que l'on utilise le terrain, les circonstances, et qu'on les transforme en guerriers. C'est transformer des paysans en guerriers. C'est pas facile, et c'est pour ça qu'il y a cette idée, justement, de l'importance du terrain, de l'importance des formations, et de l'importance aussi de la disposition des troupes.
Oui. Alors, ce que vous dites, et c'est vrai qu'on a parfois un peu de mal à se le représenter, Jean Lévy, c'est que, et ça, c'est aussi l'application de principes taoïstes, il faut en quelque sorte se mettre en état de vide. Hein, on a vu l'importance du vide pour la philosophie taoïste. Se cantonner dans une pure virtualité par rapport à l'adversaire, en quelque sorte... faire en sorte d'être invisible, de ne pas se montrer, et que cette invisibilité guide les mouvements de l'adversaire qui, du coup, lui, demeure bien visible.
Voilà, c'est cela. Donc, il y a une espèce de dialectique du visible et de l'invisible. C'est-à-dire, à partir du moment où moi, je lui suis invisible et qu'il ne connaît pas mes mouvements, il est entièrement, en quelque sorte, déterminé par mes propres mouvements, et c'est moi qui, en quelque sorte, ai déjà pris possession d'adversaire. C'est moi qui le contrôle. Et donc, l'invisibilité de soi suppose donc la visibilité de l'autre et sa vulnérabilité. C'est-à-dire, celui que l'on ne voit pas, qu'on n'appréhende pas, est invulnérable, et celui qui se laisse, en quelque sorte, deviner, est éminemment vulnérable.
Alors, dans ces cas, on ne va pas faire le retournement du retournement, Jean Lévy, mais si les deux généraux en présence ont lu et pratiquent de manière aussi fervente le Sun Tzu, l'art de la guerre, qu'est-ce qui se passe?
Alors là, on est dans une aporie. S'ils sont tous les deux aussi
compétents,
versés dans la connaissance férue du Sun Tzu, en principe, ils devraient s'abstenir de se faire la guerre, puisqu'ils savent très bien qu'aucun des deux ne peut avoir la maîtrise de l'autre et le dominer. Donc, en principe, il y a en quelque sorte un statu quo. Chacun reste sur ses positions. Mais en réalité, il y a toujours un qui, en principe, est plus habile que l'autre.
Alors, ce renversement dialectique, il s'illustre particulièrement dans un chapitre important que vous présentez comme tel, le Mugong, combattre l'ennemi dans ses plans. C'est-à-dire, c'est un pas de plus fait dans la direction, justement, de pénétrer en quelque sorte les intentions de l'adversaire.
Voilà, c'est-à-dire que la véritable guerre, victorieuse, est une guerre où on n'a pas besoin de combattre parce que l'ennemi est vaincu avant même d'avoir engagé le combat. C'est-à-dire qu'il sait lui-même qu'il ne pourra rien faire contre soi-même, et donc c'est là qu'il y a toutes les manœuvres de subversion, de déstabilisation de l'adversaire. On voit l'importance des espions. On voit l'importance...
Oui, tout un chapitre qui est consacré aux espions. Ce qui vous fait dire, d'ailleurs, Jean Lévy, que ça, c'est une des preuves que la rédaction de cet ouvrage est postérieure au VIe siècle avant notre ère. Parce que c'est une époque où il y avait beaucoup, beaucoup moins d'espions.
Disons,
on ne faisait pas la guerre de cette manière.
Voilà. D'abord, on ne faisait pas la guerre de cette manière. Et puis, d'autre part, un des espions qui est cité est un certain Su Ting, qui est un agent double, qui a complètement déstabilisé un des États de la Chine de l'époque. Et il est mort vers 300. Donc, il est très difficile que le livre ait pu être rédigé au VIe siècle s'il est fait mention de quelqu'un qui meurt deux siècles après.
Alors, c'est le chapitre 13, donc, oui. Utilisation des espions. Mais je vous ai coupé la parole, Jean Lévy.
Oui, parce que, disons, cette guerre, elle suppose donc que, finalement, on s'introduit dans la pensée de l'adversaire et en quelque sorte, on est comme une espèce de parasite qui contrôle et devient maître de tous les mouvements et de la pensée même de l'ennemi. Mmh. Donc, c'est ça qui est le modèle d'une guerre victorieuse.
Alors, j'évoquais avec vous, Jean Lévy, comme ça, par hypothèse, le fait que deux généraux, face à face, et tous les deux, se soient tous les deux inspirés de l'art de la guerre. Mais vous racontez le cas d'une bataille, il y en a eu plus d'une d'ailleurs, où l'un des deux généraux était au contraire influencé, était confucéen, et donc influencé par le confucianisme, et évidemment, ça a été assez désastreux pour lui, dans le cas que vous citez en tout cas.
Oui, mais c'est pas, disons, il y a énormément de cas de ce genre, c'est-à-dire qu'un général considère qu'il doit montrer sa bravoure. Donc, voilà. On est toujours dans le cadre des valeurs viriles et héroïques. Et c'est une tradition qui s'est maintenue. Un général et un soldat ou un officier considéraient que faire la guerre, c'était se battre. Et refuser le combat et fuir devant l'ennemi, même si ça devait apporter la victoire, n'était pas une façon noble ni courageuse de faire la guerre et que ça ne rapportait aucune aura, aucune gloire. Or, ce qui était important, c'était de se couvrir de gloire. C'est pour ça qu'ils allaient au combat, ils étaient vaincus, mais ils avaient le sentiment, malgré tout, d'avoir été héroïques.
Mmh, oui. Alors, et donc, pas forcément très efficace.
Non. C'était pas leur but.
Oui. Alors, justement, ce chapitre 8, les neuf retournements, il est extrêmement riche en sentences et en principes. Alors, c'est là qu'on peut lire, il est des voies à ne pas emprunter, des villes à ne pas investir, des armées à ne pas affronter, des provinces à ne pas conquérir, des ordres royaux auxquels ne pas obéir. Alors ça, ce dernier élément, des ordres royaux auxquels ne pas obéir, ça fait aussi partie d'un autre principe important de l'art de la guerre, c'est que le général doit être seul maître à bord sur son territoire. À partir du moment où il est en campagne, il doit pouvoir même sursoir aux ordres du monarque, du souverain.
Oui, c'est très important, c'est-à-dire qu'il est lui-même un monarque. À partir du moment où un général a reçu du souverain le bâton, quelque sorte de commandant en chef, il est comme un souverain et il n'a aucun ordre à recevoir de personne. Et c'est très important parce que à partir du moment où il est libre de ses mouvements, il est infiniment plus efficace et peut répondre beaucoup mieux aux retournements de situation.
Voilà. Alors, un autre aspect important, c'est ce que vous appelez, qui est tout à fait en lien là aussi avec la philosophie taoïste, la dialectique des forces ordinaires et extraordinaires, régulières et irrégulières. Ça réfère aussi justement à cette, entre guillemets, féminisation de la guerre aux époques dont nous parlons. Donc, ces deux principes, on va faire un peu de chinois avec vous, Jean Lévy, profitez de votre présence. Donc, Zheng et Qi, mais je le prononce très mal.
C'est Zheng et Qi. Alors, Zheng, c'est la force régulière. Voilà. Et Qi, c'est la force irrégulière. Mais l'une se renverse, chacune se renverse l'une dans l'autre. Dans la mesure où une force Zheng est Zheng, dans la mesure où elle est attendue. Et la force Qi est une force, en quelque sorte, irrégulière, extraordinaire, dans la mesure où elle est inattendue. Mais si on a l'adversaire, l'ennemi, attend de vous que vous répondiez par une manœuvre, qui est une manœuvre Zheng, et que vous répondiez par une manœuvre Qi, bon, vous êtes dans le cas habituel de l'extraordinaire et de l'ordinaire. Mais si lui attend, à un moment donné, une manœuvre extraordinaire et que vous répondez par une manœuvre qui est ordinaire, à ce moment-là, la manœuvre en quelque sorte ordinaire se transforme en une œuvre extraordinaire et vice-versa.
Bah,
disons que c'est une dialectique qui dépend finalement des attentes de l'autre.
Alors, autre métaphore de genre féminin très importante qui est très très souvent présente, je l'ai relevé dans des tas de chapitres différents de cet art de la guerre, c'est la métaphore aquatique. Une bonne armée doit être comme l'eau. Et vous ajoutez que c'est l'entité la plus proche, finalement, du Tao, de ce principe du Tao.
Oui, parce qu'elle n'est pas rigide. Elle est malléable, elle est fuyante, elle va vers le bas et elle épouse toutes les particularités du terrain. Donc, c'est cette souplesse. Cette faiblesse apparente et cette force réelle, puisque l'eau, finalement, creuse son chemin et sape...
Et puis elle peut avoir une grande puissance. Alors justement, ça, c'est dans Vide et plein, je crois. Il y a une belle métaphore de l'eau. Bon, il y a un texte sur l'eau, effectivement, dans Vide et plein. La forme d'une armée est identique à l'eau. L'eau fuit le haut pour se précipiter vers le bas. Une armée évite les points forts pour attaquer les points faibles. L'eau forme son cours en épousant les accidents du terrain. Une armée construit sa victoire en s'appuyant sur les mouvements de l'adversaire. Une armée n'a pas de dispositif rigide, pas plus que l'eau n'a de forme fixe. Et puis, alors, il y a d'autres très belles métaphores de l'eau. Alors, en particulier sur la puissance, comme l'eau des grands fleuves, on nous dit ici, donc, dans le chapitre « Puissance stratégique », et l'eau rapide du torrent arrive à rouler des galets en raison de sa puissance. Il y a aussi l'élément de la puissance.
Oui, mais disons, cette puissance...
Et quand on se rappelle les grands fleuves qui circulent en Chine, coulent en Chine...
Le
fleuve jaune,
le fleuve bleu.
Oui, le fleuve bleu.
Cette force irrépressible de l'eau. Mais cette force irrépressible, elle tient en quelque sorte à sa ductilité, à sa faiblesse, à sa souplesse et au fait qu'on la frappe. En elle-même, elle ne possède aucune force. C'est parce qu'elle profite des déclivités du terrain.
C'est ça. Oui, absolument. Alors, donc, une belle illustration à la fois des principes de l'art de la guerre de Sun Tse et puis des principes taoïstes. Alors, vous évoquez quelques batailles réelles qui ont eu lieu. Il y en a eu beaucoup, notamment les royaumes combattants. L'époque des royaumes combattants, c'était des époques extrêmement guerrières. Et alors, notamment, il y a la bataille de la Falaise Rouge. Et là, on met en scène un grand stratège général et homme d'État de l'époque, Cao Cao, qui a aussi...
Cao Cao, ça veut dire ça. Le nom fait penser à quelque chose un peu de machiavélique, Cao Cao.
Oui, et alors, il a beaucoup commenté l'art de la guerre de Sun Tse.
Alors, Cao Cao est l'un des plus grands généraux de l'histoire de Chine, mais il n'est pas des royaumes combattants, il est beaucoup plus tardif, il est du 3e siècle après notre ère. Et c'est un homme d'État remarquable qui a écrit le premier commentaire du Sun Tse.
D'accord, très bien. Alors, il nous reste un peu de temps pour les détails sur cette bataille et la manière dont l'art de la guerre y a été appliqué. Je renvoie les auditeurs à votre belle traduction et surtout cette très belle édition illustrée grâce à Alain Toth, qui a été votre iconographe pour cet ouvrage.
Il a fait un travail absolument remarquable.
Ouais.
Et parfois difficile, parce que, c'est même un texte abstrait que le Sun Tse.
Oui.
Il y a des idées vraiment qui sont des idées métaphysiques, d'autant plus qu'il s'agit du vide et qu'il est tout de même très difficile d'illustrer le vide.
Donc,
et on a eu du mal à certains moments à trouver des images qui puissent en rendre compte.
Avec des documents d'époque, alors évidemment sur la longue période où cet ouvrage, L'art de la guerre, a exercé son influence. Donc c'est publié aux éditions Nouveau Monde. Et puis je voulais signaler, on n'aura pas le temps d'en parler, mais vous reviendrez nous en parler, Jean Lévy, un ouvrage que vous publiez chez Maurice Nadeau, La Chine est un cheval et l'univers une idée, un très beau titre, donc pour un recueil d'essais publié chez Maurice Nadeau.